mi-chemin entre le documentaire classique et l'expérience interactive immersive, le WebDoc évolue à la même vitesse que le web. Je parle donc transmédia avec l'ami Philippe Lamar, producteur et directeur de création chez Urbania. Bon podcast.
North.
Hey.
Comment ça va?
Pas pire, toi?
Ça va?
Ouais. Ben, c'est ça, merci de bien vouloir me jaser, parce que je prépare un truc sur le transmédia. Puis, étant donné que t'es quasiment le grand-père de ça avec Montréal en 12 yeux, je me suis dit que ça serait intéressant d'entendre ton point de vue là-dessus. J'ai jasé avec d'autres personnes qui sont dans ce secteur-là à différents niveaux. Puis je pense que ton point de vue pourrait amener un éclairage différent sur la chose.
Let's go!
All right! Ça serait quoi pour toi la définition du transmédia, Philippe?
Hey, ça, c'est qu'il y a un mot qui est galvaudé ou qui est incompris, c'est bien le mot transmédia. C'est un cross-média, transmédia, multimédia, nouveau média. Là, c'est comme un espèce de mot pour tout.
Oui.
Mais moi, je pense que ultimement, là, puis je pense que c'est une notion large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des définitions très pointues de chaque terme. Ça, c'est une histoire qui décline sur plusieurs plateformes. Ça, c'est la même histoire, mais c'est ça. Moi, je pense que le transmédia, pour moi, là, en fait, c'est la notion de raconter une histoire. Puis de la raconter dans la forme la plus appropriée selon chacune des formes que tu peux utiliser. Puis est-ce que ça, c'est une histoire qui décline sur plein de plateformes? Est-ce que c'est plein d'histoires qui, mises ensemble, veulent dire quelque chose? Pour moi, ça a plus vraiment de signification. On est dans un univers en constante évolution. Fait que d'essayer c'est de figer vrai. Des choses, c'est impossible.
Toi, depuis Montréal, en 12 lieux, t'as-tu fait d'autres trucs transmédia?
Ben, écoute, c'est ça, puis ça, c'est drôle. C'est Montréal en 12 lieux, pour moi, c'est comme une extension. Nous, on faisait le magazine Urbania depuis 2003.
Ouais.
Et à chaque numéro, on sortait une espèce de petite expérience interactive. Ça pouvait être des petits jeux. Des fois, c'était des petits infographics. On avait fait, je me souviens, la carte du trafic de la drogue sur Terre en 2004, je pense, quand on a sorti le numéro sur le site. Mais ouais, à chaque fois, on faisait des petits box pop interactifs. On faisait des patentes. Avec parce qu'on avait un gars qui faisait du plage dans notre équipe. Et à chaque fois, on sortait la caméra vidéo. On avait fait ajouter des affaires. Puis on... Fait que nous autres, il n'y avait aucune définition. Nous autres, on s'amusait, on faisait des bébelles sur Internet. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'était pas du fantaisie. Quand on a fait Montréal en 12 yeux, le terme web documentaire n'existait pas. C'est devenu un terme qui a pris forme en France. Mais tu sais, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que j'ai fait depuis ça? J'en ai fait d'autres. Écoute, mais c'est sûr que Montréal en 12 yeux, c'est la première fois qu'on avait des moyens pour faire ce qu'on voulait. Puis on avait les moyens autant pour faire du contenu vidéo, donc avec notre série télé, mais on avait aussi les moyens pour faire un site web enrichi où on peut prendre tous nos dossiers de recherche de la série télé. Puis normalement, un peu comme par rapport à ton podcast, c'est dommage de mettre plein d'affaires aux poubelles si ça n'existe pas. Mais ça, on fait ça dommage de mettre tous nos dossiers de recherche aux poubelles. Puis c'est un peu sans s'en rendre compte qu'on s'est positionné avec ce projet-là, justement, comme étant des gens qui, oui, produisent du contenu télé, donc des formats linéaires, mais qui sont aussi capables de réfléchir à comment ce contenu-là peut vivre dans un contexte interactif. Fait que oui, on a fait d'autres projets. À un moment donné, quand Luc Sweeney, producteur exécutif à l'ONF, est arrivé en poste, bien, il a fait le tour un peu des boîtes à Montréal qui faisaient des choses un peu innovantes. Puis il est venu s'asseoir et il m'a parlé d'un projet qu'il voulait faire sur la pollution sonore. Fait qu'on a fait un web documentaire qui s'appelle Écologie sonore avec l'ONF. Puis après ça, on a fait deux autres projets qui sont assez ambitieux, mais qui ont été financés grâce au fond des médias au volet expérimental. Ils ont la web série interactive qui parle, qui est une fiction interactive, une genre d'enquête tout parfelu. Puis il y avait aussi Fort McMurray, qui était un jeu documentaire qu'on a fait sur Fort McMurray en Alberta, qui était un projet extrêmement ambitieux, autant au niveau du contenu vidéo, mais aussi de la façon de naviguer dans le contenu. Et dans ce cas, il y avait beaucoup de couches au niveau transmédia dans Fort McMurray.
Qu'est-ce que ça l'amène de plus d'arriver avec une histoire racontée à la transmédia, selon toi?
Depuis toujours, les histoires littéraires racontées de façon sans par la main, on raconte l'histoire de A à Z, il y a une puissance à tout ça. On fait raconter des histoires par nos parents quand on est enfant, puis ça structure notre pensée. Fait que c'est sûr qu'on est beaucoup. L'humain est très attaché à la notion de la tragédie grecque, des trois axes. Mais le jour où on découvre l'interactivité, donc la possibilité d'avoir des bribes d'histoires qu'on peut influencer, et moi je me souviens dans mon cas, ça a été les livres dont vous êtes les héros quand j'étais petit. Là, moi, je me souviens de loup solitaire, là, puis j'ai passé des heures à lire ces livres-là et à les relire pour vivre une nouvelle histoire à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de pas avoir la même prémisse d'histoire. Chaque fois que tu rentres dans une histoire interactive, ben, c'est que ça peut être une nouvelle branche que tu découvres. Puis, c'est la notion de contrôler ton destin. Donc, d'avoir le sentiment qu'on s'offre un cadre prédéterminé, mais dans lequel c'est toi qui es roi et maître de destin. Je pense que c'est ça la force du jeu vidéo, puis c'est ça la force des histoires interactives à côté de la forme du sens média. C'est de donner le contrôle à l'utilisateur, de donner un espèce de sens de contrôle que comme les humains ont dans la vie, mais là, tu l'as dans un cadre de prédéterminé. Donc, c'est à la fois maîtrisé parce qu'il y a un auteur qui a créé un contexte, mais on donne le contrôle parce que c'est toi qui décides de comment cette histoire-là va se définir.
Fait que l'aspect interactif de la chose, c'est un peu comme le moteur du transmédia parce qu'il y a des histoires qui sont plus ou moins interactive. Là. De mémoire, Montréal, en 12 lieux, je pouvais le vivre de façon vidéo, je pouvais le vivre dans le magazine, mais jusqu'à un certain point, je ne me promenais pas tant que ça dans une histoire. Alors que ce que tu racontes maintenant, c'est que non seulement tu as du contenu qui est là, mais de la façon qui est organisée, la personne redevient un peu l'histoire dont vous êtes le héros, mais avec des moyens contemporains.
Exactement, mais ça, c'est deux types de projets aussi. Puis je pense qu'effectivement, maintenant, les projets dont c'est parlé, pas vu, puis pour le mémoire, c'est des projets qu'on a traités comme des œuvres interactives. Je pense qu'après ça, c'est juste la notion de mettre quelque chose entre les mains d'un utilisateur pour peut influencer sa navigation, son parcours. Je pense que là, il y a une puissance à ça. Puis c'est sûr que l'univers qui est le plus travaillé à ce niveau-là, c'est l'univers du jeu vidéo. Là. C'est vraiment des gens qui ont appris à garder un joueur captif depuis longtemps, beaucoup plus que nous en France Média. Nous, en France Média, on est vraiment dans nos premiers balbutiements. On ne maîtrise pas encore tout à fait la narration comme les gens de jeux vidéo, mais je pense que les gens de jeux vidéo ont intérêt aussi à surveiller ce qui se passe en France Média, parce que je pense que comme on ne vient pas du jeu vidéo, puis on n'est pas, tu sais, c'est pas notre univers naturel, je pense qu'on peut, de la même façon que je trouve qu'il y a des gens qui font des néophytes dans n'importe quel domaine, peuvent amener un regard un peu transversal. Puis c'est un peu. Parce que moi, je m'aperçois, quand j'ai fait un projet comme Point Make Money, je m'aperçois qu'au niveau de l'aspect jeu vidéo de l'expérience, on était beaucoup plus faible que les Ubisoft de ce monde.
Ben oui.
Sauf que d'arriver avec une notion de documentaire, donc de contenu réel, avec une démarche journalistique, documentaire, de terrain, ben c'est sûr qu'on est injecté dans cette espèce de c'est pour un documentaire, on était extrêmement innovant. C'est sûr que pour un jeu vidéo, on n'était pas très innovant, mais c'est sûr que c'est comme si on avait pris le problème à l'envers. Nous autres, on avait la contrainte d'avoir de la matière réelle, qui est beaucoup plus difficile que quand tu peux tout inventer et aller dans n'importe quelle direction. Ce qui serait intéressant, vraiment, c'est de faire des maillages. C'est de prendre donc des gens, des concepteurs de jeux vidéo, mais des filmés avec des documentaristes ou des cinéastes, puis voir ce que ça fait ou des scénaristes. Pour voir ce que ça fait de merger deux univers ensemble, justement, de prendre la puissance des jeux vidéo, mais avec le savoir-faire en narration que les cinéastes et les réalisateurs ont développé. Parce que je pense que oui, effectivement, il y a peut-être une nouvelle génération de raconteurs d'histoire qui sont en train de naître, mais il y a quand même quelque chose dans l'héritage de la narrativité linéaire qui est vraiment fort. Fait que moi, je pense que ce mélange de ces deux univers-là ça va être intéressant de voir évoluer dans les prochaines années.
Puis ça, pour l'instant, toi, t'en vois pas des gens qui viennent du gaming qui entrent dans le volet peut-être un petit peu plus narratif, on va dire traditionnel, en opposition avec le gaming, là?
Non, ben moi, je vois plus des gens qui font le contraire, qui viennent du traditionnel, qui vont explorer le monde interactif, parce que c'est une belle patente. Les gens du gaming, j'ai l'impression, sont vraiment dans un contexte où leur travail est en demande, c'est un nouveau genre, c'est vraiment... Tant que je pense que les gens, justement, qui viennent du documentaire traditionnel, puis du web, on a envie de trouver une nouvelle façon de raconter des histoires. Fait que c'est pas... Moi, j'ai pas vu des gens, non, effectivement, qui venaient des Ubisoft de ce monde qui essaient de faire des documentaires interactifs. Je n'ai pas encore vu. C'est peut-être temps.
Ben oui.
Les recruter.
Ben oui, effectivement. Tantôt, quand tu parlais de Montréal en 12 lieux, tu disais qu'enfin, pour une fois, vous aviez la possibilité financière de réaliser ce truc-là. Parce qu'effectivement, le transmédia, c'est un impact financier beaucoup plus grand que ce en quoi tout est plus, mettons, des émissions de télé. Tu pourrais être contenté de juste faire des émissions de télé, mais à partir du moment que tu embarques dans une approche un peu plus transmédia, il y a un impact financier, puis que à part le fonds des médias, il y en a-tu d'autres qui se pitchent là-dedans? Ou c'est comme c'est une condition sine qua non, si tu n'as pas une subvention des fonds des médias, tu ne peux pas faire de transmédia?
Ben, c'est sûr que le fonds des médias, avec le volet expérimental qu'ils ont lancé il y a 5 ans, c'est sûr que ça, ça a permis d'ouvrir un peu le jeu. C'est sûr que là, les compagnies de jeux vidéo indépendantes ont sauté dans le tas, fait que c'est sûr que c'est eux qui ramassent la grande partie de Mango. Puis là, évidemment, il y a les fonds Bell, les fonds québécois là, qui financent des projets interactifs, mais de moins en moins. Puis sinon, il y a la SONEC qui s'en vient avec un petit programme qu'ils vont lancer en janvier à ce sujet-là. Mais c'est sûr qu'on a vécu un peu le l'âge d'or de l'expérimentation dans les 10 dernières années avec le web. Puis le web a été une espèce de far west. Où, oui, il y avait un peu de sous, mais pas tant que ça, mais comme on était dans un nouvel univers, on faisait plus n'importe quoi. Là, puis quand l'espèce de lune de miel était un peu terminée, là, la disparition du flash, là, maintenant l'HTML, l'arrivée des mobiles, ça rend le web beaucoup moins, je ne dis pas poétique, mais beaucoup moins ludique. Et maintenant, on dirait qu'on tombe dans un espèce d'univers de plateforme. On est beaucoup dans des choses très fonctionnelles, des outils.
Ouais.
Des œuvres interactives, on dirait que là, c'est comme si on avait passé un petit moment, là, le trip un peu artistique, puis là, on le balancier, ça va de l'autre part. Fait qu'au niveau financier, c'est sûr que c'est très dur à faire financer. C'est pour vraiment, il y a l'ONF qui est un leader mondial,
ouais.
Mais à part l'ONF qui font des visites expérimentales, il n'y a pas beaucoup de portes d'entrée au niveau financer un projet dans le média. Il n'y a pas de modèle d'affaires, ça, on va se le dire. Même la télé, tu penses que là, au Québec, mais au moins, il y a un modèle d'affaires en télé qui s'appelle la.
Ouais.
Des licences de diffuseurs. En transmédia, il n'y a pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. Nous autres, on a pris notre projet Fort McMoney, on l'a distribué sur des plateformes comme celle de Global Mail, Bon.fr en France, de Journal Allemand. Mais c'était vraiment des ententes de gré à gré où on avait des ententes. Nous autres, notre objectif, c'était d'aller chercher de l'histoire, puis eux autres, d'avoir un contenu enrichi. Mais c'est pas comme si on avait un programme de TV qu'on avait vendu à coût de 25 000 piastres pour le monde. Fait qu'on n'a pas de modèle d'affaires, c'est ça qui rend ça un peu encore compliqué. Le web, c'est un peu le problème du web, là, c'est un univers extraordinaire pour distribuer du contenu Internet pour rendre accessible à tout le monde, à tous les citoyens. Sauf qu'au niveau des modèles d'affaires, on s'entend que ceux qui ramassent le micro sur le web, là, c'est Facebook, Google, puis tous les gens qui ont justement des sites de plateforme. Non, au niveau financier, c'est sûr que moi, soit j'en fais un ou deux ans, un ou deux au maximum, parce que justement, c'est à chaque fois que moi, je considère ça comme de la R&D. C'est un peu des choses.
Ben, j'imagine que ça va évoluer pareil, parce que oui, ça a peut-être été l'Eldorado dans les 10 dernières années au sens culturel du terme, mais je pense pas que les choses se sont arrêtées encore. Je suis tout à fait d'accord avec toi, toutefois, que le web, c'est comme...
standardisé.
Puis effectivement, la démocratisation du web via un ces CMS-là, on dirait que le monde a arrêté de créer des choses puis qu'ils essayent plus de gosser avec leur contenu pour le rentrer dans ces Facebook de ce monde-là. Puis ça fait en sorte que la forme n'est pas challengée, n'est plus questionnée. Effectivement, dans la période flash, c'était un free-for-all total. On s'en colissait des analytiques de Google. On ne savait même pas que ça existait.
Exact. C'est ça. Il y avait vraiment une espèce de naïveté dans notre façon de travailler qu'on a perdu aujourd'hui. Là, on est vraiment plus dans un mode... Il y a des canevas qui existent, qui sont générés par les Facebook de ce monde ou même les Snapchat et tout ça. C'est tous les comportements sont prédéterminés puis préfabriqués. Fait que t'es comme pris avec... c'est un peu de la peinture à numéro. Là. C'est pas pris avec une espèce de liberté de création comme on avait en Flash puis même en HTML. Fait qu'on est pris de... On est un peu encarcané en ce moment là, à cause des appareils, de la technologie
ouais.
Qui sont devenus un peu... Fait que c'est ça, c'est un gros frein. Mais qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, on va sûrement avoir envie de libérer tout ça puis repartir en mode créatif. Mais là, on vit une espèce de moment un peu où tout... C'est comme ça aller qui disait que la création.
Y a-t-il un avenir à ça, tu penses, le transmédia, malgré tout ce qu'on se dit depuis tantôt? Hein?
Wow, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a toujours de la place à faire des choses. Je pense qu'il faut juste comme. Il faut vraiment qu'on vienne à l'essentiel de à quoi ça sert. Parce que je pense que justement, on est tellement submergé de différentes plateformes, contenus, applications, tout ça. À un moment donné, il faut vraiment se poser la question comment on s'inscrit dans un univers où il y a trop de contenu, trop de tout, tu sais.
Et voilà qui conclut un autre PitchCast. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, téléchargez l'application pour iPad Grenier Magazine sur l'App Store. Salut!